Aujourd'hui, on fête un anniversaire. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Le podcast a 15 ans. Et oui, 15 ans, c'est dingue quand j'y pense. J'ai démarré le podcast avec Laurie à l'époque, avec des bouts de ficelle, en mars 2009. Ça faisait déjà plus de 10 ans que j'avais repris ma première entreprise. Donc ça fait 25 ans, ça aussi c'est dingue, que je dirige des entreprises, que je manage des équipes. Et le plus dingue, c'est que j'en apprends encore tous les jours sur la manière de manager des gens et de diriger des entreprises. Le sujet est franchement inépuisable, les choses changent, mais il y a des basiques qui restent. Et donc, mon objectif, ça va être encore et toujours de te partager ce que j'apprends. Parce que je suis comme tout le monde. En 25 ans, j'ai fait plein d'erreurs, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu en tirer des leçons. C'est comme ça que j'ai construit petit à petit mon système de management. Et puisque le podcast a 15 ans, voilà ce que je te propose aujourd'hui. Dans cet épisode, je te parle de mes 15 erreurs les plus utiles, entre guillemets, et comment je fais désormais pour les éviter. Mon but, c'est de te les éviter à toi aussi. Tu vas t'épargner des pertes de temps, de l'argent et des galères si tu évites ces 15 erreurs. Tu verras que certaines erreurs sont connues. Ce qui est moins connu, évidemment, c'est comment ne pas faire ces erreurs. Et bien sûr, ce que je te propose, parce qu'on est chez ODM, et qu'ici on est pragmatique, c'est de te donner des solutions que tu vas pouvoir appliquer. Donc effectivement, le contexte change, les choses évoluent, mais en management, en direction d'entreprise, je pense qu'il y a des principes qui sont ancrés et qui sont ancrés pour très longtemps. C'est uniquement de cela que je vais te parler. Évidemment, pour celles et ceux qui ont des déclics à chaque fois que je vais parler d'une erreur, eh bien, il y a un moyen d'aller plus loin, c'est de t'inscrire au mail privé, et là, on va pouvoir discuter, partager un petit peu de manière un peu plus interactive que ce qu'on fait dans le podcast. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te lister ces 15 erreurs, et puis ensuite, je vais rentrer dans le détail. La première erreur, c'est de ne pas croire au management. La deuxième erreur, ça a été de parler trop à la tête et d'oublier le cœur. La troisième erreur, ça a été de croire que je communiquais déjà assez. La quatrième erreur, ça a été de ne pas savoir écouter. La cinquième, d'essayer de changer les autres. La sixième, de ne pas faire de feedback. La septième, de trop attendre pour licencier. La huitième, d'utiliser la force plutôt que la fréquence. La neuvième, ça a été de recruter au feeling. La dixième, ça a été de ne pas compartimenter mon temps. La onzième, ça a été de manquer de clarté. La douzième, ça a été d'avoir trop d'indicateurs. La treizième, ça a été de trop travailler dans ma boîte. La quatorzième, ça a été de chercher la performance à court terme. Et la quinzième, ça a été de travailler ma vision plutôt que ma culture. Alors, je te propose qu'on commence tout de suite avec la première erreur que j'ai faite, qui est tout bêtement de ne pas croire au management. C'est-à-dire que moi, j'ai repris une entreprise, j'étais plutôt bon en stratégie, enfin, en tout cas, je le pensais. J'avais une vision assez claire de ce qu'il y avait besoin de faire dans cette entreprise, et je me suis dit que, en fait, ça suffisait pour que ça s'exécute. Donc, ce que je faisais, c'est que je montais ma stratégie, j'expliquais aux gens en quoi elle était bonne, ils me disaient qu'ils étaient d'accord, et bizarrement, il ne se passait rien. Et donc, à partir du moment où j'ai vu qu'il ne se passait rien, je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je ne suis pas assez sur le terrain. En fait, ce que je dis est vrai, mais pourtant, ça ne s'exécute pas. Donc, je dois aller sur le terrain, donc je dois être avec eux, donc je dois faire avec eux, ce qui est, en général, la deuxième erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, tant qu'il n'a pas compris qu'il devait maîtriser ce qu'on appelle le management, eh bien, il va tout le temps se situer entre la tête, c'est-à-dire la stratégie, ou je dirais, il va se situer au niveau de la vigie du bateau, ou dans la cale à ramer avec les gens, mais il va juste oublier qu'il y a un stage intermédiaire, ce que j'appelle une courroie de transmission, qui s'appelle le management. Donc le rôle du management, de base, hein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de faire que les gens suivent la stratégie, exécutent la stratégie. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais déjà, il faut comprendre cette chose-là. Donc moi, assez vite, je me suis rendu compte, oui, effectivement, qu'il manquait quelque chose. J'ai assez vite identifié que ce qui manquait, c'était du management. Effectivement, j'en avais jamais vraiment fait. Et puis, je m'en étais jamais trop soucié parce que pour moi, un petit peu, ça c'est une pensée qui est très répandue chez nous, c'est que le management, ça doit être naturel. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es convaincant, si tu as une bonne stratégie, bah en fait, les gens naturellement, puisqu'ils sont pleins de bon sens et qu'ils sont bons, eh bien ils vont l'exécuter. La réalité, elle est tout autre, c'est que pour générer chez les autres les actions qui doivent être faites pour générer du résultat, eh ben, il faut avoir des techniques, il faut avoir un système, etc. La deuxième croyance que j'avais, c'était que j'étais pas doué avec les gens. Et donc, puisque j'étais pas doué avec les gens, c'est-à-dire pas spécialement doué avec les gens, ben, je serais pas doué en management. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me former, où j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, c'est-à-dire le fait que il y a des phases dans le management, que la première, c'est la confiance, créer la confiance entre soi et les autres. Souvent, on croit que c'est quelque chose qui est acquis. En réalité, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Ensuite, il y a l'autonomie. Ensuite, il y a de la délégation. Et alors, on peut avoir un mode de management qui est plus ciblé, qui est plus coaching. Mais il y a plein d'étapes à faire pour réussir son management. Donc, première erreur, ça a été vraiment de ne pas croire au management. Et tant que je ne m'y suis pas intéressé vraiment, eh ben, j'oscillais entre ma stratégie, mon exécution. Et en fait, les choses ne se passaient jamais comme j'aurais voulu qu'elles se passent. C'est à partir du moment où j'ai découvert le management que je l'ai systématisé, que là, ça a commencé vraiment à bien fonctionner et à décoller. Erreur numéro 1, donc ne pas croire au management. L'erreur numéro 2 que j'ai faite, ça a été de ne parler qu'à la tête et pas au cœur. Évidemment, c'est une image, on ne parle pas des organes, mais disons que moi, dans mes études, et puis ensuite dans mes premières fonctions, qui étaient des fonctions de finance, j'étais, je dirais, plutôt extrêmement du côté de la rationalité, enfin... Pour moi, on ne prend des décisions qu'en les ayant étudiées, avec des chiffres, etc., etc. Et quelque part, c'est vrai. Hein, je veux dire, si tu ne maîtrises pas les chiffres, tu risques de prendre de mauvaises décisions. Le problème, c'est qu'au moment d'exécuter, si tu parles qu'à la tête des gens, c'est-à-dire à leur raisonnement, c'est-à-dire à un petit peu au discours de « regardez, j'ai étudié et donc j'ai raison », eh bien, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, un être humain, il ne se met pas en action parce que tu le convaincs rationnellement, il ne décide pas réellement avec des éléments rationnels, il va plutôt décider en fonction de ses émotions, c'est-à-dire décider s'il peut te faire confiance ou pas, décider si tu as l'air d'être quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il va le faire en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de ses émotions. Et puis, au moment de se motiver, au moment de travailler, au moment de donner plus que simplement faire du temps de présence pendant 35 heures, et ben là aussi, c'est plutôt ses émotions qui vont jouer. Quelqu'un qui est passionné, c'est pas quelqu'un qui a été convaincu rationnellement. C'est quelqu'un qui est en phase aussi au niveau de ses émotions avec le travail qu'il fait. Et là, pour moi, ça, c'était un peu nouveau, puisque c'est pas du tout ce qu'on m'avait appris. Et donc... je pensais qu'il suffisait simplement d'être convaincant, de ne pas avoir de contradicteurs, et dans ce cas-là, ça allait marcher. C'est tout à fait faux. Il faut absolument s'adresser au cœur des gens si on veut réussir à les mettre en action. Tant que la porte des émotions n'est pas ouverte, tant qu'elle est fermée, eh bien, tu peux essayer de passer toutes les infos que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi qui n'étais justement pas doué avec les gens, et puis plutôt du côté de la rationalité, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à m'adresser, entre guillemets, au cœur des gens? Eh bien, j'ai essayé de comprendre comment fonctionne un être humain, d'essayer d'en développer le mode d'emploi, et j'ai utilisé pour ça un outil qui s'appelle le DISC. Ça a été la première chose que j'ai faite, c'est déjà de comprendre que on n'est pas tous fait pareil, qu'on a tous des profils différents, et que donc, tu ne peux pas t'adresser de la même manière à un consciencieux, à un dominant, à un stable, etc. etc. Si tu as écouté les podcasts sur le disque, tu es sûrement au courant de comment ça se passe. La troisième erreur que j'ai faite, ça a été de croire que je communiquais assez. Ou on pourrait le dire d'avoir peur de trop communiquer. C'est-à-dire que, là encore, hein, c'est un petit peu la même origine que être rationnel, ça suffit. Moi, je croyais que une fois que tu as dit quelque chose à quelqu'un, il l'a compris, il a enregistré, et donc, naturellement, il va agir en fonction de ce que tu lui as dit. Première chose. La deuxième chose, c'est que on a peur de déranger les gens. C'est-à-dire, on se dit, ouais, mais si je suis tout le temps là, leur répéter les mêmes choses, etc., ça va être désagréable, je vais les déranger, etc. On a peur aussi de micro-manager, parce qu'on nous dit, attention, il faut manager, il ne faut pas micro-manager. Et en fait, on se trompe sur la signification du mot micromanager. Un micromanager, c'est quelqu'un qui contrôle tout, et c'est quelqu'un qui impose à ses collaborateurs de travailler à la manière qu'il a absolument définie. C'est ça le micromanagement. Ça n'est pas une communication fréquente, cohérente, comme on doit le faire dans une entreprise. Et moi, ça a été un déclic aussi quand je me suis rendu compte que en réalité, dans une entreprise, tout le monde manque d'informations, ou tout le monde a le sentiment de manquer d'informations. J'ai fait le test assez souvent quand j'ai commencé à faire des conférences, en disant aux gens qui dans cette salle estime que son manager communique trop avec lui. Et en général, il n'y a pas beaucoup de bras qui se lèvent. En général, c'est quelques 2-3 personnes sur une centaine, et quand on interroge ces 2-3 personnes, ce qu'elles reprochent à leur manager, c'est pas qu'il y ait trop de communication, c'est qu'il n'y ait pas assez de clarté dans la communication, ou qu'il y ait du micromanagement, ce qui n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas croire qu'on communique assez. Ça aussi, une fois que j'ai compris ça, ça a été un déclic pour mettre en place un management basé sur une communication fréquente. Ça, je vais y revenir aussi. Le défaut que j'avais aussi, c'est de ne pas savoir écouter. Alors, ce n'était pas tellement que je n'avais pas envie d'entendre ce que les gens me disaient. J'étais quand même assez conscient, je dirais, de manière, entre guillemets, intellectuelle, que je ne pourrais prendre des décisions et fonctionner qu'en les écoutant, c'est-à-dire en prenant des informations auprès de mes collaborateurs. C'était plutôt que je ne savais pas comment on faisait pour écouter les gens. C'est-à-dire que, si tu es comme moi, en fait, on a été éduqué, on a été formaté dans les écoles ou dans les différentes expériences qu'on a eues pour résoudre des problèmes. Et donc, la première erreur qu'on fait, quand on commence à faire des 1-1 avec nos collaborateurs, c'est que dès qu'un collaborateur nous évoque un problème, on pense devoir le résoudre. C'est-à-dire, puisqu'il me donne un problème, en fait, il faut que je lui apporte une solution. C'est normal, c'est presque instinctif chez nous. Il y a un problème, je dois le résoudre. Or, ton collaborateur, c'est pas forcément ça qu'il attend de toi. Déjà, ce qu'il attend, c'est que tu l'écoutes. Et en général, tout de suite réagir quand il te dit quelque chose, au lieu de le laisser parler, eh bien, ça va te priver de plein d'informations. Et lui, ça va le frustrer, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était juste t'expliquer ce qui allait pas. Pas que tu sautes sur le problème pour lui dire « non, c'est pas vrai » ou « bah, t'as qu'à faire ça », etc., etc. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand on manque d'écoute, en général, et qu'on saute sur le problème pour le résoudre, en fait, on est court-termiste. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est rapidement trouver une solution ou donner notre avis sur un problème qui a été évoqué. Parce qu'on se dit, comme ça, j'ai résolu le problème, et puis c'est tout, c'est bon, c'est résolu. Je lui ai dit comment il fallait qu'on fasse. C'est pas du tout une approche long terme. Si tu veux avoir une approche long terme, il faut que tu laisses tes collaborateurs s'exprimer, et ensuite, il faut que tu les aides à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Si tu résous toi-même tous les problèmes de tes collaborateurs, tu pourras jamais les rendre autonomes, tu pourras jamais déléguer, et ça te retombera dessus. Donc, pour avoir une meilleure écoute, moi j'ai deux techniques quand je suis en entretien avec quelqu'un. La première technique, c'est la technique de la respiration. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle et que je dois lui répondre, que je veux lui répondre en 1-1, je m'impose de faire une respiration avant de lui répondre. Et tu verras qu'en général, quand tu fais ça, l'autre se met à continuer de parler. Parce qu'en fait, il n'a pas forcément le même profil que toi. Il est peut-être stable, et les stables, ils ont besoin de temps pour expliquer les choses. Et en fait, tu vas te rendre compte, oui, donc il continue de parler, et même qui, dans ce qu'il te dit, évoque la solution à son problème. C'est-à-dire c'est déjà quelque chose qui va t'éviter de devoir prendre en charge un problème, alors que c'est plutôt ton collaborateur qui pourrait le résoudre. Donc, mon premier conseil, c'est, puisque tu laisses cette respiration entre les interactions, c'est de laisser l'autre développer son argument et ne pas préparer ta réponse mentalement, être vraiment dans l'écoute. Cette histoire de respiration, ça va vraiment te permettre ça, c'est-à-dire tu commences vraiment à réfléchir à ce que tu vas dire au moment où l'autre a fini de parler, pas pendant qu'il parle. Et puis, deuxième technique, c'est de prendre des notes, parce que quand tu prends des notes, bah, tu peux plus difficilement interrompre la personne, puisque tu es en train d'écrire ce qu'elle te dit. Et ma troisième technique, c'est le ping-pong. Alors, c'est pas tout à fait une technique d'ailleurs qui permet de savoir écouter, c'est plutôt une technique qui permet de ne pas prendre le problème de l'autre. Parce que très souvent, au début, quand tu fais du management, tu vas te retrouver, tu auras envie d'aider les choses, tu auras envie que ça se passe bien, et du coup, tu vas prendre en charge les problèmes de tes collaborateurs, ce qui ne va pas favoriser l'autonomie dans ton équipe. Donc moi, là, mon outil, c'est le ping-pong, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « Écoute, j'ai un problème », donc je laisse décrire le problème, j'attends que qu'il me donne une solution, c'est-à-dire que je ne lui donne pas de solution, j'attends simplement qu'il me la donne, et si vraiment il ne me la donne pas, au lieu de lui dire « bah tu sais, moi je pense que tu devrais faire ça », je relance, c'est-à-dire le ping-pong, c'est lui renvoyer le problème. Donc ce que je fais, c'est que je lui dis « ouais, donc ton problème c'est ça, ok, ouais, c'est embêtant, et donc qu'est-ce que tu vas faire ?» Et je repousse de toutes mes forces sa volonté de me confier son problème, puisque c'est moi le manager et que c'est lui le collaborateur, et que je sais que si il réussit à résoudre le problème lui-même, eh bien, on aura gagné tous les deux. Donc voilà, quatrième erreur que j'avais, c'était vraiment de ne pas savoir écouter. Moi, juste, je n'avais pas appris. Et puis, j'ai un profil dominant, et donc un des défauts des dominants et des influents, c'est de ne pas écouter les autres. L'erreur suivante que j'ai faite, ça a été d'essayer de changer les autres. D'ailleurs, pas seulement au niveau du travail, mais aussi dans la vie. Puisque j'avais un petit peu des connaissances sur le mode emploi de l'être humain, je me suis dit, bah, c'est super, c'est un super levier, ça va me permettre de changer les autres. Quand je dis changer les autres, ça veut dire changer leur pensée. C'est-à-dire que je me disais, quand il y a quelqu'un qui... dans mon entreprise qui ne fait pas comme je voudrais qu'il fasse, eh ben, faut que je change ses pensées, et en changeant ses pensées, finalement, je vais changer ses actions. Et en fait, l'intention était bonne, hein. L'idée, c'était, c'est quand même plus efficace d'avoir des gens qui sont tous d'accord avec moi, et qui sont sur la même longueur d'onde, entre guillemets, et qui pensent comme moi, parce que du coup, s'ils pensent comme moi, etc., etc., eh bien, ils vont exécuter d'une meilleure manière. Et ça paraît logique, je pense que ce genre de raisonnement, tu l'as eu certainement. Le petit problème, c'est que on n'est pas des psys, toi et moi. On a beau avoir lu quelques bouquins et avoir quelques techniques, qui sont très efficaces par ailleurs, hein, je ne les remets pas en cause, les techniques que je propose, mais on n'est pas des psys. Et d'ailleurs, même un psy qui a consacré toute sa carrière à ça, quand il a un patient qui vient le voir et qui est consentant, il ne va pas forcément réussir. Même avec quelqu'un de consentant, il ne va pas forcément réussir à changer les pensées de son patient. Donc, nous, en tant que manager non-psy, avec des collaborateurs qui ne sont pas forcément, entre guillemets, consentants à s'ouvrir à nous, on n'a aucune chance de réussir à changer leurs pensées. En fait, moi, je pars du principe, parce que c'est plus réaliste et plus pragmatique, et du coup, ça fait partie de mes contraintes. Assez vite, je me suis dit, mais non. D'abord, j'ai pas le droit, hein, éthiquement. Ma mission, c'est pas de changer les pensées des gens. Je suis pas un gourou, je suis pas un psychologue. Ma mission, c'est de changer les comportements de mes collaborateurs pour qu'ils obtiennent des résultats. Je me suis dit, c'est ça ma mission. Et donc, commencer à me dire, je vais changer leurs pensées pour que les comportements changent, alors que je n'ai accès à la couche extérieure de nos collaborateurs, c'est-à-dire que ce que tu vois de tes collaborateurs, c'est quoi? C'est pas leurs pensées, tu les vois pas devant les yeux. Tu peux écouter ce qu'ils te disent, mais est-ce que c'est exactement ce qu'ils pensent? Moi, j'en suis pas toujours sûr. En tout cas, ce à quoi tu as accès, l'extérieur de ton collaborateur, ce que tu vois factuellement, ce sont ses comportements. Et donc, assez vite, je me suis dit, mais non, Mon objectif, c'est pas de changer les pensées des gens. De toute façon, c'est une quête sans fin. Mon objectif, c'est de changer les comportements des gens. La façon dont ils agissent, parce que c'est comme ça que j'obtiendrai des résultats. Et donc, mon mode d'emploi des gens, ma communication, la manière dont je vais les influencer, ça va simplement servir à faire évoluer leur comportement. Je ne cherche pas à savoir si leurs pensées ont évolué, c'est pas mon problème, c'est le leur. Moi, ce que je recherche, c'est qu'ils aient des comportements qui soient en phase avec l'exécution de la stratégie qui a été décidée dans l'entreprise. Sixième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas faire de feedback. Alors, à l'époque, d'ailleurs, j'aurais pas dit j'ai du mal à faire des feedbacks, parce que je connaissais pas forcément le terme. J'aurais peut-être dit à faire des critiques, à dire vraiment ce que je pense, à recadrer les gens, etc., etc. En fait, on a toujours du mal à aller voir quelqu'un pour lui dire que quelque chose ne va pas, qu'il doit modifier son comportement, etc., etc. Parce que je pense que c'est simplement parce qu'on se sent gêné, parce qu'on a peur que ça dégénère en conflit, parce qu'on a peur que ça abîme la relation qu'on a entre nous, ou simplement parce qu'on n'a pas la technique pour le faire. Mais en tout cas, aller faire un feedback à quelqu'un, c'est-à-dire aller voir quelqu'un et lui, bah, par exemple quelqu'un qui est un peu en retard à chaque fois aux réunions, ça peut nous agacer, mais bizarrement, la réaction qu'on peut avoir, c'est d'en parler à tout le monde, sauf à la personne en question. De dire « mais c'est quand même pas normal, il est tout le temps en retard, je comprends pas, il devrait comprendre », ou d'essayer de lui envoyer des espèces de messages, subliminaux, c'est-à-dire de faire un soupir quand il arrive, ou de se dire « mais il va quand même bien comprendre que c'est pas normal », ou d'espérer que quelqu'un d'autre lui dira. Bref, en général, on fait un peu tout pour éviter la confrontation, et donc on aura une confrontation que en dernier recours, c'est-à-dire vraiment quand on n'en pourra plus. Et en général, quand on n'en peut plus, c'est le moins bon moment pour faire un feedback, parce que du coup, on risque de un peu perdre la maîtrise, d'être trop violent. Je reparlerai de la violence ou de la force tout à l'heure en management, mais en tout cas, on ne le fait pas de la bonne façon. Et moi, vraiment, la découverte de l'outil feedback, pour moi, ça a été une absolue révolution. J'ai eu du mal à le mettre en place, j'ai vachement reculé avant de le mettre en place parce que je trouvais que c'était pas naturel, que je me disais non mais il faut compter sur l'intelligence des gens, enfin je me racontais plein d'histoires en réalité. Le jour où j'ai commencé à faire des feedbacks, eh bien ça a complètement changé mon rapport avec mon collaborateur et ça m'a vraiment permis d'être complètement serein par rapport au fait que, bah oui, si tu demandes pas à quelqu'un de modifier son comportement, ça n'arrivera pas. Et du coup, tu n'exécuteras pas la mission dont on a parlé avant, et donc ton management ne fonctionnera pas. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une méthode simple et qui permette de le faire de manière quasi naturelle et de manière surtout efficace. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la force et de la fréquence, puisque ça a été aussi une de mes erreurs. Au début, quand j'ai décidé de faire des feedbacks, j'y reviendrai après, je les ai fait de manière trop violente. Il y a d'autres méthodes beaucoup très différentes qui permettent d'obtenir les mêmes résultats. Mais donc, mon erreur numéro 6, ça a été vraiment de pas me mettre au feedback suffisamment rapidement. Si je peux te convaincre à mettre en place cet outil une fois que tu auras mis ces 1 à 1, eh bien je vais te faire gagner énormément de temps. Ça change vraiment la donne dans tes rapports aux collaborateurs. En 7e erreur, j'ai mis trop attente pour licencier. Parce que quand j'ai préparé ce podcast, je me suis remis un petit peu dans le contexte du début de mon management, de ma reprise d'entreprise, etc. Et je me suis rendu compte que, ouais, il y a vraiment un truc qui m'avait étonné à l'époque. C'est que, bah, de la même manière que j'osais pas faire de feedback, j'avais du mal aussi à prendre la décision, entre guillemets, finale avec des collaborateurs, en fait, qui pouvaient pas rester dans l'entreprise. C'est-à-dire que je savais que ça allait pas s'améliorer, je savais qu'il y avait pas d'autre solution, et pourtant, je ne passais pas à l'action. Et en fait, là où je me suis rendu compte que c'était une erreur, c'est que à chaque fois que finalement je les ai licenciés, je parle pas pour des raisons économiques, parce que j'ai eu à le faire aussi sur l'une de mes entreprises, mais pour des raisons, je dirais, de compétences ou de comportement, eh bien, à chaque fois que finalement j'ai licencié la personne, à chaque fois je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai eu l'impression que je m'enlevais un poids énorme et que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Parce que garder quelqu'un dans une équipe qui dysfonctionne, etc., ça fait beaucoup plus de mal à l'équipe et à la dynamique de l'équipe que de l'exclure. L'exclure, c'est-à-dire le licencier, ça va faire aussi un traumatisme pour l'équipe, mais beaucoup moins insidieux, beaucoup moins fort que ce qui est subi par l'équipe quand cette personne reste là. Et en fait, pourquoi, avec le recul, je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai fait cette erreur? Ben, en fait, c'est lié à l'erreur précédente. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui fonctionne pas bien dans ton équipe, au niveau soit résultat, soit comportement, bah la première chose, c'est que tu ne sais pas comment lui faire le feedback. Et comme tu ne lui fais pas le feedback, en fait, tu ne le mets pas dans la démarche d'amélioration. Ou, c'est-à-dire que quand tu commences à faire des feedbacks à quelqu'un, pour être clair, c'est soit le feedback fonctionne, la personne réussit à modifier son comportement et puis tout va bien et finalement le feedback s'arrête, soit ça ne fonctionne pas. Et donc, la suite, au bout de moult feedback, hein, bah c'est peut-être que tu vas devoir t'en séparer. C'est toujours une issue possible du feedback. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc, il faut vraiment te mettre dans l'état d'esprit que oui, en tant que manager, il va t'arriver un moment où tu devras licencier. C'est vraiment le truc qu'on déteste quand on est manager. Hein. Il n'y a personne, enfin, sauf des malades mentaux, personne qui aime licencier, et pourtant, parfois, il faut le faire. Mais il faut le faire de la bonne manière. Si on n'apprend pas à faire du feedback d'abord, en fait, le risque, c'est de passer de zéro feedback à un licenciement. Genre, la personne, tu lui as jamais rien dit, et tout d'un coup, ça y est, tu l'as dans le collimateur, tu as décidé de passer à l'action, et là, ça va être super violent. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce que je te conseille, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, le licenciement, je parle pas du licenciement économique, mais pour insuffisance professionnelle ou pour comportement, on a fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Comment licencier ?». Donc ça, c'est l'erreur numéro 7 que j'ai toujours regrettée, c'est d'avoir trop attendu pour licencier. Elle est assez liée d'ailleurs à l'erreur numéro 8, enfin je l'ai plus ou moins évoquée dans l'exemple que je t'ai donné juste avant. Je t'ai dit, bah, le risque en fait quand tu fais pas de feedback, c'est de passer d'une relation où tu communiques pas vraiment avec ton collaborateur sur ses problèmes, ou alors tu communiques que positivement, jamais tu lui dis ce qui va pas, puis tout d'un coup tu décides de licencier. Et ça, c'est ultra violent pour ton collaborateur. Je dirais que c'est vraiment à la limite de l'éthique. Moi, virer quelqu'un alors qu'on lui a jamais dit que ça allait pas, ou on lui a pas dit explicitement que ça allait pas, s'il n'y a pas eu de progression, c'est-à-dire si on ne lui a pas donné de chance de modifier son comportement en étant très clair, en disant voilà, ça ne va pas, il faut que ça change, et puis la personne ne change pas, on lui redit comme ça pendant plusieurs mois, etc., jusqu'à arriver à l'inéluctable, eh bien pour moi, c'est pas éthique de ne pas le faire comme ça. Et d'ailleurs, quand tu commences à faire ça, c'est-à-dire avoir une progression, de dire d'abord les choses aux gens, et puis aller jusque-là et à l'inéluctable, en général, ton collaborateur, il est presque d'accord avec toi à la fin, parce qu'il constate qu'il n'a pas réussi à changer. C'est vrai, d'ailleurs, pour les recadrages aussi. Donc, là où je veux en venir, c'est que mon erreur numéro 8, ça a été plutôt d'utiliser la force que la fréquence. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait quand on est manager, c'est soit de se dire, mais non, j'ai confiance dans l'âme humaine, les gens, ça va se résoudre tout seul. Bon, ça, en général, assez vite, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. La deuxième erreur, c'est de se dire, bah, après tout, c'est moi le chef, donc j'ai la hiérarchie, et donc, pour parvenir à mes fins, j'ai le pouvoir. C'est ce qu'on te fait croire quand tu rentres dans une entreprise. C'est comme ça qu'une entreprise est construite. Il y a une hiérarchie, les gens qui sont au-dessus des autres, ils ont un pouvoir sur ceux qui sont en dessous. Ça, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas le meilleur moyen de réussir. La hiérarchie, le problème, c'est que ça, d'abord, c'est violent, donc ça, c'est pas agréable pour la personne qui l'a subi, et ensuite, ça n'incite pas les gens, en fait, à vraiment mettre leur créativité à ton service, et en plus, ça ne favorise pas la rétention dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne qui peut éviter d'avoir affaire à un pouvoir hiérarchique, et surtout en France, eh bien, elle va toujours le faire, elle va toujours éviter. Donc, soit elle va esquiver, soit dès que tu seras pas là, elle fera pas ce qu'il faut, ou soit elle s'en ira. Donc pour moi, le pouvoir hiérarchique, ce que j'appelle la force, c'est vraiment le pouvoir qui fonctionne le moins bien dans l'entreprise. Je crois beaucoup plus au pouvoir d'influence, c'est-à-dire développer une confiance avec nos collaborateurs, leur laisser toute marge de manœuvre, une fois qu'on a réussi la confiance sur la manière de faire les choses, mais le faire progressivement en les accompagnant. Et donc, ce qui va vraiment mieux marcher que la force, c'est la fréquence. Parce que l'influence est liée à la fréquence. La fréquence, ça veut dire, par exemple, que quand un collaborateur a un comportement qu'il doit modifier, plutôt que d'attendre vraiment de plus en pouvoir, de le prendre dans une pièce et je dirais, de mettre du sang sur les murs, ce qu'on va faire, c'est que aussitôt qu'on peut, on va lui dire « Tiens, il y a un truc dont je voulais te parler. » Alors, on a une méthode qui s'appelle le feedback pour le faire. Et on va lui en parler. Et si le collaborateur ne modifie pas son comportement, plutôt que de passer à de la violence, on va continuer à utiliser la fréquence. C'est-à-dire qu'on va lui redire, et lui redire, et lui redire. Et mon expérience, et c'est pour ça que je voudrais que tu le fasses aussi, parce que ça t'évitera bien des erreurs, c'est que la fréquence, ça marche 1000 fois mieux que la force. C'est plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, c'est moins traumatisant pour tout le monde, et à 90%, ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'un de nos outils majeurs, chez Outils Manager, c'est le 1-1, et qu'on le fait avec une fréquence élevée. Plutôt que de croire que le management, c'est une fois par an, j'exagère, mais il y a encore des gens qui croient ça, donc je le dis quand même, c'est une fois par an au cours de l'entretien d'évaluation, je préfère avoir des gens qui font des 1-1 toutes les semaines, parce que ça va fonctionner beaucoup mieux. L'image que je prends souvent, c'est tu es dans ta voiture, tu es sur une route droite, et comment tu fais pour rouler droit sur une route? Et bien en fait, si tu regardes tes mains, tu n'arrêtes pas de faire des petites corrections sur ton volant. C'est beaucoup plus efficace que d'attendre que la voiture soit complètement dans le fossé pour essayer de la remettre sur la route. C'est ça la différence entre un management par la fréquence et un management par la force. Donc, vraiment, une autre révélation pour moi, un autre déclic que j'ai eu et que j'aimerais bien que tu aies, c'est la fréquence qui marche mieux que la force. Si c'est pas clair ce que je dis là-dessus, si tu comprends pas exactement ce que ça veut dire, n'hésite pas à me poser des questions via les mails privés. 9e erreur que j'ai faite au début, c'est recruter au feeling, c'est-à-dire trop vite et sans méthode. Et moi, j'ai planté mes premiers recrutements à cause de ça. Alors, je les ai pas plantés tous, des fois j'ai eu du bol, parce que le feeling et la compétence étaient en même temps chez la personne. Mais en gros, mon taux de réussite en termes de recrutement, et je pense que c'est le taux de réussite quand tu recrutes au feeling, c'est 50-50. Ce qui est débile. C'est-à-dire qu'aucun chef d'entreprise, aucun manager ne déciderait d'un investissement important en se disant « Ouais, bon, bah, j'achète une machine à plusieurs millions ou à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros et finalement, bon, il y a une chance sur deux qu'elle marche, la machine. » Personne ferait ça, on est d'accord. Et pourtant, en recrutement, c'est ce qu'on entend. Et c'est le même genre d'investissement. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer quelqu'un qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an dans ton entreprise ou dans ton équipe, eh ben, c'est comme si tu faisais un investissement lourd. Et en plus, quand tu te plantes, c'est-à-dire que quand tu recrutes quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, c'est pas seulement une catastrophe au niveau coût financier. Évidemment, c'est une catastrophe au niveau coût financier parce que non seulement tu as dépensé de l'argent pour recruter le bonhomme, mais en plus, tu as commencé à le payer. Mais en plus, va falloir le sortir de l'effectif. Et si c'est en dehors de la période d'essai, tu vas devoir lui donner de l'argent. Mais en plus, il va falloir re-recruter quelqu'un. Donc, tu vas recommencer. Donc déjà, au niveau financier, c'est une catastrophe. Mais au niveau temps, c'est pareil. Au niveau perte de motivation, de morale et de dynamique dans ton équipe, ça va être catastrophique aussi. Donc, bien recruter déjà, c'est ultra risque. Enfin, recruter déjà, c'est un très grand risque. Le même risque, même plus important, je pense, que quand on fait un investissement lourd. Première chose. Et en plus, non seulement c'est risqué, mais en plus c'est ultra important. C'est ultra important parce que si tu te plantes, ça coûtera cher. Mais c'est ultra important parce qu'en réalité, plus tu vas bien tu vas recruter des profils excellents, plus ce sera facile de manager ensuite. Donc, moi je le dis souvent, la première clé du management, c'est de bien recruter. Ça ne veut pas dire qu'on choisit toujours, mais en tout cas, quand on a la chance de pouvoir choisir qui on va recruter, vraiment, c'est une voie royale pour pouvoir ensuite bien manager. Donc, comment j'ai fait finalement ? Une fois que je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, ça ne va pas. Oui, une autre raison d'ailleurs pour laquelle je recrutais mal, c'est que je voulais recruter rapidement. En général, quand on prend la décision de recruter, on est pressé. On l'a annoncé à nos équipes qui n'en peuvent plus, etc., etc. Et en plus, les agences de recrutement, en général, elles te poussent à recruter, puisqu'elles sont, comme toi, elles ont plutôt intérêt à ce que le recrutement se fasse vite, ça leur coûtera moins cher et elles encaisseront l'argent plus vite. Donc, tu as plein de raisons de te planter sur le recrutement. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de changer d'état d'esprit. Je vais te donner plusieurs choses à bien s'ancrer dans la tête. Quand on fait un recrutement, le premier et le plus important, c'est il vaut mieux rater un bon candidat plutôt que recruter un mauvais. Alors, je fais la démonstration dans la formation qu'on a créée là-dessus, je ne vais pas la faire ici, mais à tous les coups, si tu rates un bon candidat, ce n'est pas très grave. T'as pas, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. Si tu fais rentrer un mauvais, c'est une catastrophe. Donc, premier état d'esprit, préférez rater un bon plutôt de recruter un mauvais. Deuxième état d'esprit, il faut se retirer de la tête que quand on est en entretien avec un candidat, premier entretien, on a le même objectif. C'est l'erreur qu'on fait quasiment tous, moi je la fais encore quelques fois. C'est de se dire, en fait, lui veut trouver un emploi et moi je veux trouver un candidat. Donc on a le même objectif. Pas du tout. Au début du recrutement, ton objectif, ça doit être d'être dans un état d'esprit entre guillemets, négatif, c'est-à-dire trouver toutes les raisons pour lesquelles tu ne vas pas le prendre. C'est ce que je te conseille. Plus tard, quand tu auras vraiment écrémé et que tu n'auras plus que des candidats de valeur, tu pourras changer d'état d'esprit et passer à un état d'esprit positif. Donc la deuxième chose à comprendre, c'est il faut vraiment avoir deux états d'esprit dans le processus d'un recrutement. Un état d'esprit excluant au début du processus et un état d'esprit incluant ou inclusif, je ne sais pas comment on dit, à la fin du processus. Troisième changement de mindset qu'il faut avoir pour bien recruter, c'est vraiment déterminer notre choix, notre premier choix, c'est-à-dire le moment où on va sélectionner les candidats, sur du comportemental plutôt que sur du feeling. Alors, je vais pas faire toute la formation sur le recrutement, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plus important au début, c'est s'assurer que la personne sera capable de faire les missions, c'est-à-dire qu'elle en a la capacité, qu'on va lui demander, plutôt que son tempérament, son adéquation avec la culture d'entreprise, etc. Le premier juge de paix, c'est celui-là. Et comment on fait pour être sûr que la personne pourra le faire ? En regardant son passé, en regardant son historique et en regardant ce qu'elle a déjà fait. Voilà pour les mindsets vraiment à modifier quand on fait du recrutement. Et donc, moi, une fois que j'ai changé mon mindset, j'ai créé mon approche, et je l'ai créé d'ailleurs avec un ancien responsable de recrutement, et on a créé la méthode recruteur d'élite. Et donc, on a eu une approche plus scientifique, une approche scientifique comme pour un investissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain dedans, mais en tout cas, on a eu un principe d'étape avec des barrières et passages, et à chaque étape, on a un principe, une méthode et un état d'esprit. Et puis aussi, on a aussi beaucoup travaillé en amont avec l'équipe. Moi, maintenant, c'est ce que je fais, parce que recruter quelqu'un, c'est l'occasion aussi de rebrasser les cartes dans ton équipe. Et finalement, après en avoir discuté avec ton équipe, quelquefois, tu ne recrutes pas le profil que tu avais prévu au départ. Voilà. J'en dis pas plus, j'en ai dit assez sur le recrutement. Mais voilà, une erreur majeure que j'ai faite au début, c'est de recruter au feeling. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme erreur ? Ah oui, ne pas compartimenter mon temps. C'est mon erreur de numéro 10. Et donc, ce qui se passait, en fait, quand je n'avais pas de méthode d'organisation de mon temps, eh bien, j'étais au niveau du management, il m'arrivait deux choses. C'est que j'étais envahi par mes collaborateurs, donc l'impression qu'en fait, le management, ça ne s'arrête jamais. Et je pratiquais un management diffus. C'est-à-dire, un management diffus, c'est quoi ? C'est, tu vas à l'entreprise, Tu gères des choses et parmi tout ça, tu fais du management. Ou tu crois que tu fais du management. Donc, premier problème au niveau du management, un problème d'envahissement, c'est-à-dire de non-maîtrise de mon temps, et un management diffus, c'est-à-dire inefficace. Où je me rendais compte que finalement, ça ne marchait pas du tout. Deuxième problème au fait de ne pas compartimenter mon temps, au niveau de mon travail, c'est-à-dire de ma production, de ma productivité. Du coup, tout était mélangé. J'avais des listes de tâches, hein, c'était le truc que j'utilisais. Et en fait, mes listes de tâches, elles étaient infinies, donc j'avais l'impression de ne jamais m'en sortir. Et aussi, je ne savais absolument pas combien de temps, j'avais une mauvaise évaluation de mon temps. Donc je me plantais tout le temps dans mon agenda. Donc, pas compartimentant, ça avait deux effets vraiment problématiques. Un au niveau du management et un au niveau de mon travail, de ma productivité. Et donc, comment j'ai résolu ça? Avec deux choses principales. La première chose au niveau du management, ça a été de mettre en place des rituels de management. Ça a été l'origine du 1 à 1, du feedback, etc., de tout ce dont on parle. Pourquoi? Parce que quand tu mets des limites à ton management, mais que tu mets de la fréquence, et ben du coup, ça devient mesurable. C'est-à-dire que tu sais si tu as fait du management ou pas et combien tu en as fait. Donc, en entreprise, c'est plutôt intéressant. C'est du temps concentré, c'est-à-dire que le temps que tu passes avec tes collaborateurs quand tu fais du management, il est beaucoup plus efficace, il a beaucoup plus d'impact, et ça permet de développer l'autonomie avec tes collaborateurs, parce que s'ils savent que s'ils te voient une fois par semaine, bah, entre-temps, ils ne te dérangent plus. Donc déjà, ça améliore à la fois leur autonomie à eux et la qualité de ton travail à toi. Et pour le travail, moi, la révélation que j'ai eue, ça a été plutôt que des listes de tâches infinies, d'avoir des créneaux de temps dans mon agenda avec des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire, dans un agenda, il ne faut pas mettre que ses rendez-vous avec ses collaborateurs, ses clients, etc. Il faut mettre des rendez-vous avec soi-même et il faut savoir à l'avance ce qu'on va faire pendant ce créneau. Et il y a certains créneaux comme ça qui sont récurrents, qui sont les piliers de l'avancement de ton travail. Je ne vais pas ici faire reprendre ce qu'on a décrit dans la formation système d'organisation réaliste, mais voilà. Et donc le fait d'avoir des moments limites de travail dans ta journée, ça permet de te dire qu'il restera toujours du temps demain pour finir, ou toujours du temps la semaine prochaine pour finir ce que tu as commencé. Et donc, ça permet de bien mieux évaluer le temps qu'on doit passer sur telle ou telle tâche, de réaliser nos process de mieux en mieux, et aussi, ça oblige à être réaliste sur notre saturation. C'est-à-dire que quand tu visualises ton agenda, tu vois tout de suite que s'il est complètement plein et blindé et que c'est que du travail tout le temps, tu perds en souplesse et tu vas direct au burn-out. Et donc, moi, je calcule même un taux de saturation avec lequel je suis à l'aise. Et le reste, c'est fait pour gérer les imprévus, les tâches non prévues, etc. Donc, cette histoire des routines pour le travail, ça a complètement aussi changé ma productivité. Donc vraiment, si tu as des problèmes d'organisation de temps, si tu as ce sentiment d'être envahi en permanence, etc., la solution, c'est de compartimenter ton temps. Si tu veux une méthode complète pour le faire, eh bien, c'est la méthode système d'organisation réaliste. Erreur numéro 11, manquer de clarté. Ah, ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite au début et que je vois partout, que je vois très très souvent dans plein d'organisations. En fait, c'est d'avoir trop d'objectifs. Ça part d'une bonne intention, hein, c'est l'idée, il faut pour avancer, il faut avoir plein d'objectifs et on veut avancer sur tous les fronts en même temps. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu mets une charge à tes collaborateurs extrêmement importante, à toi aussi d'ailleurs, tu mets une pression énorme, parce qu'on ne peut pas être bon partout en même temps, mais en plus, tu dilues l'effort. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils vont faire un effort sur plein de choses. Et ça, c'est dur à mesurer. C'est beaucoup plus difficile à mesurer que si tu demandes un effort sur peu de choses. Donc, c'est quoi la clé? Comment, qu'est-ce qui est tout d'un coup a résolu ça chez moi? Au lieu de prendre le début d'année et puis de me dire « cette année, il faut qu'on fasse ça », et de dire à mes collaborateurs en début d'année « il y a tout ça à faire » et de leur présenter un truc genre avec 10 ou 12 objectifs, je me suis dit « non, je vais prioriser les objectifs, je vais dire « on va, pour l'instant, on se concentre sur ces 3 objectifs, et tant qu'on ne les a pas résolus, on ne passe pas aux 3 suivants, etc. etc. » En fait, la clé, elle est très simple, c'est « oui, tu peux avoir plein d'objectifs, mais tu dois, sur des périodes de temps courtes, réduire ces objectifs. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'objectifs sur 5 ans, un peu moins sur 2 ans, un peu moins sur 1 an, et ainsi de suite. Et donc, la clé, c'est de jouer sur les périodes. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout con, mais j'ai dit, ben non, au lieu de faire des objectifs sur 360 jours, ce qu'on fait classiquement, moi, je fais des objectifs sur 90 jours. Et tant que ces objectifs ne sont pas faits, je ne passe pas au suivant. C'est tout bête, mais il y a très peu de monde qui le fait, et on limite ce nombre d'objectifs à 3 objectifs maximum. Du coup, tu es beaucoup plus clair, tu es beaucoup plus focus, et tu mets de la pression, mais sur ce qui compte, pas sur plein de choses. On a développé une méthode là-dessus qui s'appelle management par objectif en 3 temps, et elle est basée sur cette idée toute simple, et elle évite l'erreur de manquer de clarté. L'autre erreur que j'ai faite, parce que j'ai regardé un petit peu mes tableaux de bord de l'époque, c'est d'avoir trop d'indicateurs. Ça vient un peu d'ailleurs de l'erreur d'avant, qui est de manquer de clarté parce qu'on a trop d'objectifs en général. Mais ça vient aussi d'autre chose, c'est que en général, quand on met de nouveaux objectifs, on crée aussi de nouveaux indicateurs, ce qui est très bien. Mais on oublie de tuer les anciens indicateurs. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les indicateurs, c'est pas fait pour fliquer les gens. Les indicateurs, c'est fait pour voir si, d'une part, pour le chef d'entreprise ou pour le manager, juste de vérifier qu'on est le bon cap et que voilà, et que tout va bien. Mais par rapport au management, à quoi ça sert un indicateur? Ça ne sert pas à fliquer, ça sert, entre guillemets, à donner une vision du monde à ton collaborateur. Ça sert à attirer son attention sur ce qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu mesures tout, tu n'attires l'attention sur rien. C'est-à-dire que si tu as une batterie d'indicateurs, là on est en audio, je ne peux pas te montrer, mais si par exemple sur mon ordinateur, j'ai plein de voyants dans tous les sens, comme dans un avion, et que je ne sais pas conduire un avion, je ne vais pas savoir quoi faire. Alors que si j'ai que 3 indicateurs qui sont, je dis n'importe quoi, le carburant qu'il y a dans les réservoirs, la hauteur de l'avion et la distance par rapport à ma destination, hein, je dis n'importe quoi, là j'ai compris ce qu'il fallait que je regarde et ce qui est important. Bah, tes collaborateurs, c'est pareil. S'ils ont accès à 150 indicateurs, en fait, ça ne leur donne pas de vision du monde. Alors que si tu as sélectionné pour eux les 3 indicateurs importants, ou les 2 indicateurs importants, ou même les 4 indicateurs importants, quelque part, tu fais du management. Tu ne fais pas du management direct, mais tu fais du management de type qu'on appelle nudge, c'est-à-dire tu attires leur attention sur des choses, et quand on attire l'attention des gens sur des choses, eh bien, ils s'en occupent. C'est souvent là, on comprend de travers la phrase de « en entreprise, ce qui n'est pas mesuré n'existe pas ». Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mesurer. Ça veut dire qu'il faut mesurer ce qui est important. Et en fonction de ce que toi, tu vas mesurer, ils vont comprendre ce que tu veux changer. Donc, attention au nombre d'indicateurs. Moi, au début, je n'ai du contrôle de gestion, donc j'étais un peu énervé avec ça, je mesurais tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que je travaille. J'ai des indicateurs limités. Erreur numéro 13, alors c'est plus une erreur de patron, mais ça peut être aussi une erreur de manager, c'est de trop travailler dans ta boîte et de pas assez travailler sur ta boîte. Ça, c'est vraiment une phrase que j'adore, parce qu'elle est très très simple, et la phrase qui va avec, c'est si tu es chef d'entreprise et que tu travailles dans ta boîte, t'as pas une entreprise, t'as un job, voilà. C'est-à-dire que la caractéristique d'un chef d'entreprise, c'est pas de faire que les choses adviennent, c'est-à-dire de pas être dans le quotidien de l'entreprise, mais ça, c'est de diriger son entreprise, de la modifier, de faire en sorte qu'elle ait un avenir finalement. Et en fait, pour un manager, c'est pareil. Peut-être c'est un peu moins le cas, mais un manager, si jamais il prend du recul par rapport à son équipe et à la manière d'améliorer son équipe, et qu'il est en permanence dans le quotidien à travailler avec eux, il ne fait pas vraiment son rôle de manager. D'ailleurs, on se trompe souvent à propos de l'exemplarité. Moi, j'ai plein de copains chefs d'entreprise qui me disent « Non, mais moi, je suis chef d'entreprise, donc il faut que j'arrive le premier et que je reparte le dernier de la boîte. » Ils croient que c'est ça, l'exemplarité. En fait, l'exemplarité, c'est pas ça du tout. Quand tu fais ça, en fait, quand tu bosses comme un taré parce que tu veux être celui qui travaille le plus de la boîte, qu'est-ce que tu leur montres comme exemplarité? C'est, bah, faut tous être au bord du burn-out. Il n'y a personne qui aime avoir un patron ou un manager au bord du burn-out. Ce qu'on veut, c'est, quand on est collaborateur, c'est avoir un patron ou un manager qui est clair, qui met de la clarté, qui nous respecte. Qui prend soin de lui, parce que quand on prend soin de soi, on prend aussi soin des autres, etc., etc. L'exemplarité, c'est ça. Donc, c'est pas du tout d'être le meilleur de ta boîte ou de celui qui travaille le plus, etc. Et donc, moi, j'ai eu aussi ça. Hein, j'étais trop dans ma boîte et du coup, en fait, je m'occupais pas vraiment de la stratégie, etc. Ce qui a fait un déclic pour moi, ça a été deux choses. Ça a été m'obliger à créer un truc que j'appelle le business de poche. Qu'on a d'ailleurs qu'on propose en formation, c'est quoi? C'est une modélisation de ma boîte telle que je veux qu'elle devienne, toute simple sur un fichier Excel. Et je m'oblige à regarder ça régulièrement. Ça m'évite de tomber dans le détail et de pas perdre de vue la big picture de ma boîte. Et un autre truc que j'appelle l'agenda inversé, qui est une technique qui dit que, ben, par défaut, en tant que chef d'entreprise, je suis pas à la boîte. En fait, quand je viens à la boîte, c'est que j'ai une mission. C'est-à-dire, soit je fais du management, pardon, je présente un truc à mes collaborateurs, etc., etc. Sinon, j'y suis pas. C'est ça que j'appelle l'agenda inversé. En général, l'agenda d'un dirigeant, c'est bah, le lundi, je suis à ma boîte, le mardi aussi, etc., etc., sauf si je suis en déplacement. Ben non, ça sert à rien d'être dans ta boîte si t'as pas de fonction opérationnelle dans ta boîte ou de fonction de management. 14e. Alors là-dessus aussi, hein, si tu as besoin de détails, parce que peut-être dans ce que je dis, il y a des choses qui te choquent, forcément, je fais des raccourcis. Ça fait déjà un long podcast. Si tu veux un peu plus de détails, de choses comme ça, n'hésite pas à m'interroger via les mails privés. 14e erreur, ça a été de chercher la performance rapide plutôt que de développer des actifs. Ça aussi, c'est un énorme déclic que j'ai eu. Et d'ailleurs, maintenant, c'est comme ça que je gère mes sociétés, que ce soit le management, que ce soit l'achat ou la revente, etc. Ça a été, au lieu de me consacrer à la rentabilité quotidienne, c'est-à-dire le résultat de l'entreprise, eh bien se mettre à développer des actifs. Donc j'aurais dû dire que mon erreur, c'était de chercher la performance rapide plutôt qu'à développer des assets, plutôt qu'à développer des actifs. Alors c'est quoi un actif? C'est quelque chose que tu peux acheter, vendre ou créer et qui va générer du résultat futur. Donc c'est un changement total de positionnement dans ton entreprise. Plutôt que d'être celui qui génère des résultats au quotidien, tu es celui qui crée des actifs qui vont générer des résultats futurs. Une fois que j'ai compris ça, j'ai compris quelle était ma place dans l'entreprise. Et tout a été plus simple en termes de délégation, d'organisation, etc., etc. Là aussi, si ça t'intéresse, on peut développer. Mais déjà réfléchis à ça. Est-ce que dans ta boîte, si tu es chef d'entreprise, ou si tu es manager, est-ce que tu développes plutôt, est-ce que tu fais les choses et que c'est toi qui génères les résultats, etc., ou est-ce que tu mets en place une machine qui va générer des résultats? Et donc, on en arrive à la dernière erreur, qui est lié à la première, c'était de travailler sur ma vision plutôt que sur ma culture. En fait, moi, j'ai toujours eu des consultants et j'ai toujours été embêté avec des gens qui me disaient, faut avoir une vision pour votre boîte, c'est important pour vos collaborateurs, pour vous, blablabla, blablabla. Et donc, moi, j'étais pas du tout à l'aise par rapport à cette idée. Pourquoi? Bah, parce que moi, je veux bien avoir une vision. C'est-à-dire, je veux bien dire aux gens, ben, je pense que dans 5 ans, le marché sera comme ci, sera comme ça, patati patata, et dans 10 ans, il se passera ça. Mais en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression de mentir, parce qu'en fait, j'en sais rien. Je suis comme tout le monde, je ne sais pas prédire l'avenir. Et donc, je ne suis pas à l'aise du tout dans cet exercice. Je préfère régler vite le sujet de la vision en disant, bon, voilà ce qu'on sait faire, voilà comment est le marché. Actuellement, il a l'air d'évoluer dans telle direction, donc on va aller plutôt dans telle direction. Et puis, surtout, on va essayer de tirer le meilleur parti de la situation actuelle. Voilà, pour moi, voilà, ça c'est ma vision. Comme ça, c'est réglé, j'ai une vision. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est de travailler sur la culture d'entreprise. Parce que quand tu passes ton temps sur la vision, pour moi, tu perds un peu ton temps. Alors que quand tu travailles sur la culture de ta boîte ou de ton équipe, eh ben là, tu es dans le concret. Alors pourquoi je dis dans le concret ? Parce que pour moi, la culture d'entreprise, ce n'est pas les valeurs. Ou en tout cas, oui, il y a les valeurs dedans, mais ce n'est pas le plus important. Les valeurs de dire « nous sommes honnêtes, nous sommes super dynamiques, blablabla », pour moi, c'est du blabla. En fait, la culture d'une entreprise, c'est ma définition, c'est la somme des comportements. La culture d'une équipe, c'est la somme des comportements aussi qui ont lieu dans l'équipe. En fait, c'est ce que ressent et ce que peut voir et ressentir quelqu'un qui travaille chez toi. C'est ça la culture d'entreprise. Et ça, ça vaut vachement le coup de travailler dessus. Pourquoi ? Parce que ce sont les comportements qui génèrent les résultats et la rétention, c'est-à-dire les deux R du management. Si tu es certain que ta culture d'entreprise est orientée résultat, si tu es certain que ta culture d'entreprise elle est orientée satisfaction de tes collaborateurs en même temps, c'est-à-dire rétention, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans ta boîte et que tu vas attirer des talents, etc., ben en fait, tu as gagné. Tu n'as pas besoin de travailler sur beaucoup d'autres choses que ça. Évidemment, ce n'est pas possible de commencer à travailler sur la culture quand on n'a pas mis en place le management. C'est pour ça qu'à la base, il faut déjà comprendre comment fonctionne le management. Mais en fait, le seul job d'un chef d'entreprise ou d'un manager, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de développer, de créer des actifs qui vont générer du résultat futur. Bah, c'est quoi l'actif différenciant qui va générer des résultats futurs ? C'est la culture d'entreprise, et c'est pour ça que je suis absolument persuadé que le plus gros actif que peut avoir une entreprise, c'est sa culture, et la culture, elle vient de la manière dont on manage les collaborateurs. Voilà pour mes 15 erreurs, je suis désolé, c'est un podcast qui est un peu long, j'espère que ça t'a bien agité le cerveau, j'espère que ça t'a donné des déclics, j'espère que ça t'a donné envie de creuser certains aspects. Si tu veux les creuser avec nous, on est à ta disposition. Surtout si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre 5 étoiles sur ton appli de podcast. Ça va nous aider beaucoup. C'est presque la moindre des choses. Donc, je te fais confiance pour nous mettre une note sympa et surtout un commentaire sur le podcast. Je te dis à bientôt.